Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche pour l'émission L'écho de ma commune, qui est sponsorisée par le Conseil général d'Eure-et-Loire. Aujourd'hui, dans nos studios du Rocas, de la rue Mérigot, de Radio Grand Ciel, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alain Fillon, le maire de Luray. Et j'allais dire Luy Acléré, mais non, c'est depuis 1953, c'est définitivement Luray. Bonjour Alain, comment vas-tu ?
Bonjour Marie-France, très bien, merci.
C'est un plaisir de te revoir, parce qu'il y a quelque temps déjà que tu n'es pas venu ici et nous avons des tas de choses à dire sur la commune, sur toi, sur tes projets. Comment ça va chez toi ?
Ben, ça va très bien. D'abord, aujourd'hui, plaisir partagé de revenir dans les studios de Radio Grand Ciel. Tu connais mon affection pour les radios locales en général, pour la possibilité de pouvoir émettre en toute liberté en fonction d'un certain nombre de paramètres. Sinon, je vais bien. Je vais comme un élu qui court par monts et par vaux et qui essaie de remplir plus fidèlement la tâche qui est confiée.
Tu parles d'une tâche, mais en fait, je dirais plutôt l'émission, parce que tu as beaucoup de choses à faire et diverses. Tu n'es pas seulement maire de Luray, tu as d'autres fonctions.
Effectivement, en dehors d'être maire de Luray depuis maintenant quelques décennies, je suis aussi depuis 2003 un vice-président de Dreux Agglomération, aujourd'hui de la communauté d'agglomération du pays de Dreux, élargie à 78 communes. J'ai abandonné la responsabilité des déchets, parce qu'avec le nombre de communes, cela faisait beaucoup. Donc le président de la communauté d'agglomération, Gérard Hamel, m'a confié la responsabilité de l'eau et de l'assainissement. Mais aussi d'une autre compétence qui est celle des gens du voyage. C'est un petit peu plus difficile, un dossier qui est intéressant.
C'est lourd à gérer peut-être,
mais qui montre quelques difficultés de gestion, en particulier en ce qui concerne nos moyens financiers.
Tout est résumé, évidemment. Ce sont les moyens financiers qui font le plus défaut. Il y a toujours besoin de davantage de fonds. Parce qu'il y a davantage de problèmes aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, que ce soit, comme tu le soulignes, au niveau communal ou dans d'autres collectivités, que ce soit notre communauté d'agglomération, par exemple, effectivement, c'est un petit peu, selon la formule un peu banale, le nerf de la guerre, pas là le nerf de la guerre, mais le nerf d'une bonne gestion. Aujourd'hui, parce que les collectivités doivent participer à la résorption de la dette publique, nous sommes amenés à apporter un certain nombre de contributions qui se traduisent par moins-value en ce qui concerne les aides de l'État. Mais d'un autre côté, c'est un comportement au fond citoyen, puisque tous les citoyens français sont amenés à travers des mesures, pas toujours très populaires, mais à travers un certain nombre de mesures, avec des restrictions nouvelles, de participer à cette résorption de la dette. Je pense qu'il était normal que les collectivités y participent aussi. Serait-ce aussi pour nous rompre avec un certain nombre d'habitudes ? Il y avait peut-être dans nos gestions des lignes que nous pouvons améliorer. Je pense en particulier sur les efforts nécessaires en matière de dépenses. Depuis 2 ans, la commune de Luray l'a fait, ce qui prouve que tout n'était pas forcément parfait à un moment donné.
Il y a forcément des choses qui ne sont pas parfaites. Il y a tellement de choses aussi et tellement de problèmes donc à résorber. C'est quand même très, très étrange que même les communes à qui l'on vient de baisser les subventions, je vois un article du Figaro du vendredi 13 mars avec économie, les maires veulent de la souplesse, ils contestent la baisse de 11 milliards de dotations décidées par l'État. Ça, c'est vraiment énorme. Quand on pense qu'en plus, en même temps, j'ai appris aussi ce matin à la télévision, dans Télématin, qu'il y avait plus de 300 taxes et impôts qui pèsent sur le pays. Et même le Premier ministre dit que ça fait beaucoup. Alors, on ne peut pas à la fois avoir toutes ces taxes et à la fois, en contrepartie, descendre également les subventions que l'on donne aux communes.
Oui, je pense en matière de taxes, il y a des efforts qui sont faits ou qui vont être faits de façon déjà à uniformiser un petit peu.
Et peut-être annuler celles qui sont inutiles.
Voilà, celles qui sont inutiles et puis celles aussi qui parfois font double emploi. Par exemple, il nous arrive, nous, dans nos collectivités, d'être amenés à payer de la taxe sur de la TVA. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose.
C'est intéressant.
C'est quand même
ça.
Quelque chose qui est assez étonnant.
C'est la double peine.
Voilà, quelque chose comme cela. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu de ménage, si on peut le dire ainsi, qui est en cours de réalisation. Sur la participation, j'y reviens, des collectivités à l'amélioration de la dette publique. 11 milliards, tu soulignais 11 milliards, juste à préciser en 3 ans, ce qui ramène à 3,7 milliards par an pour les collectivités. Et puis, je crois qu'il faut aussi, certes, je le confirme, nos communes en particulier vont être moins dotées, mais selon les communes, la baisse va varier. Elle va varier d'abord parce que toutes les communes ne sont pas traitées au même pied d'égalité en fonction de leur situation et de leur situation financière. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'État aide plus les communes en difficulté que celles qui sont plus à l'aise.
C'est logique.
Mais ça me paraît, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la péréquation, ça me paraît pas du tout aberrant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sans rentrer dans le détail technique, dans les dotations de l'État et qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs paramètres. Et à l'intérieur de ces lignes, certaines sont en diminution alors que d'autres vont augmenter. Ce qui veut dire que la baisse de la dotation globale de fonctionnement, il faut la calculer en pourcentage, mais en sachant qu'à l'intérieur, il y a des mouvements. Ça, c'est une première chose.
Mais c'est le maire qui décide de ces mouvements ?
Non, c'est l'État.
Ça lui est imposé.
C'est l'État. Par exemple, quand on parle de dotation globale de fonctionnement, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a la ligne A, la ligne B, la ligne C qui, en les cumulant, font le montant de cette dotation. Mmh. Alors, on peut avoir la ligne A qui diminue, mais la ligne B qui augmente. Puisque ce sont des calculs qui sont faits par rapport à des situations, à la situation des communes. Première chose. La deuxième chose, enfin, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut prendre en compte aussi qu'aujourd'hui, toutes les communes sont engagées dans des regroupements qu'on appelle des communautés. Alors, communauté de communes ou communauté d'agglomération. Et par contre, en parallèle, il existe au niveau de ces communautés d'agglomération, et je vais parler d'une que je connais particulièrement, c'est celle du pays de Dreux, notre communauté d'agglomération. À l'intérieur, il y a eu aussi des dotations de l'État qui n'existaient pas hier et qui sont réparties entre les diverses communes. Je m'explique pour être clair, c'est que d'un côté, au niveau communal, je ne nie pas que nous allons avoir à participer à l'effort financier, donc de la moins-value en ce qui concerne nos dotations, mais parallèlement, le fait d'être engagé dans la communauté d'agglomération du pays de Dreux, les communes, quasiment toutes, même toutes, vont bénéficier d'un abondement au niveau de leur budget, c'est-à-dire vont récupérer de l'argent. Pour être clair, pour la commune de Luret, puisqu'on parle de ma commune ce matin, d'un côté, pour 2015, la baisse de la dotation de l'État sera de 11 000 euros sur 390 000 euros que nous bénéficions en dotation globale, donc 11 000 euros en moins. Mais à l'intérieur, le fait que la commune de Luret soit engagée dans la communauté d'agglomération du pays de Dreux, c'est 22 000 euros qui vont rentrer dans les caisses de la commune. Donc d'un côté, il y a effectivement l'effort financier imposé par l'État, mais le même État, d'un autre côté, dit « j'abonde les communautés d'agglomération » et ça permet de répartir un petit peu cet abondement au niveau de toutes les communes.
On peut parler d'une prime au regroupement des communes.
C'est un peu ça aussi. C'est pas un peu cela, c'est carrément cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, mais c'est pas nouveau, hein, l'État nous a forcés à nous regrouper.
Oui.
Et continue à le faire à travers un débat aujourd'hui en disant vous vous êtes regroupés hier, maintenant vous vous regroupez, c'est la deuxième génération janvier 2014, mais faites-le quand même d'une manière assez conséquente parce que sinon, créer des regroupements qui restent à nombre d'habitants trop bas, ça ne vous donne pas suffisamment de moyens. J'adhère totalement à cela.
Il faut un poids, bien sûr.
Tout à fait. On l'a vu dans la première génération des regroupements, et ce n'est pas du tout une critique ni une polémique, mais des regroupements, des communautés de communes qui se sont faits à 5 000, 10 000 habitants. Quand on fait le bilan n'a pas été un bilan d'aménagement du territoire. Or, le fait de se regrouper en communauté, c'est quand même bien avant tout pour aménager notre territoire et surtout veiller au meilleur cadre de vie et aux meilleures vies de tous les habitants.
Tu as dû dire tout à l'heure le nombre de communes qui sont regroupées dans la communauté d'agglomération de Dreux. Ça fait combien de communes là ?
Ça fait aujourd'hui ça fait 78 communes
78,
qui vont du pays d'Annette jusqu'au bord du Senonchois.
Là, il n'y a plus véritablement d'opposition dans ce genre de regroupement. Je me souviens d'il y a quelque temps, d'il y a quelques, peut-être même décennies, je pense à deux communes que je connais très bien et qui s'étaient jumelées, en quelque sorte, et qui, ça n'avait pas du tout, mais pas du tout marché. Et c'est resté en l'état comme ça. Bon, peut-être se retrouvent-elles beaucoup plus à l'aise dans une communauté de communes qui soit beaucoup plus vaste et avec d'autres partenaires qu'elles deux, vraiment face à face.
Oui, ça existe toujours. Je crois qu'il faut distinguer les deux espaces de regroupement. D'abord, il y a aujourd'hui des communes qui, à mon avis, sont très lucides. On a un exemple dans notre région, de deux communes qui se sont regroupées tout simplement parce qu'elles se sont aperçues que, étant l'une comme l'autre trop petites, elles n'avaient pas de capacité d'investissement, pas de capacité d'aménagement de leur territoire. Et donc, on préférait se regrouper pour pouvoir créer une nouvelle entité, une nouvelle commune. Ce dont on parle en intercommunalité, c'est le fait que des communes en tant qu'entité, se regroupent à l'intérieur d'une communauté d'agglomération.
Mais elles ne perdent pas leur entité.
Absolument pas. Elles c'est ne ça. Perdent pas leur entité. Je dirais qu'elles perdent très peu de compétences. Enfin, elles en perdent, mais parce que ça a été un choix partagé, délibéré. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas du tout de nostalgie à ne plus gérer les ordures ménagères dans ma commune, à ne plus gérer l'assainissement, un domaine que je connais un petit peu.
Tu as pratiqué pendant de nombreuses années déjà.
D'une part, oui. Et aussi sur d'autres compétences. Après tout, le tourisme, la culture. Je veux dire que ce sont des compétences qu'il est intéressant de traiter à un échelon beaucoup plus important que le territoire communal.
Pour ce qui est de la culture, à Luré, vous êtes servi. Il y a tout ce qu'il faut.
On va dire que c'est assez varié, mais en faisant aussi, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de rivaliser, on n'a pas du tout envie de rivaliser avec les grandes villes que sont Dreux et Vernouillet, simplement qu'on essaie d'apporter une touche originale, spécifique, particulière, sachant très bien que lorsqu'il y a un certain nombre de spectacles divers qui ont lieu sur soit l'atelier à spectacle ou ailleurs sur la ville, sur la grande ville, il est clair qu'on ne peut pas rivaliser avec ces spectacles-là. Mais ce n'est pas du tout le but.
Tu ne cherches pas non plus.
Mais ce n'est pas le but. Nous apportons un complément. On a plutôt tendance, nous, en matière de culture, à donner nos espaces de production, que ce soit en salle, que ce soit à l'extérieur, à des structures plus petites, plus humbles. Et il y en a beaucoup au niveau du département. Il y a de nombreux artistes peintres, il y a de nombreux groupes musicaux intéressants. Et donc, je pense que chacun a sa place au bon endroit.
Il y a le théâtre.
Il y a le théâtre.
La troupe de l'homme en noir. Quelles sont les dernières choses que cette troupe a faites ?
Alors, c'est une troupe qui est née il y a maintenant de nombreuses années d'un regroupement de parents d'élèves, d'un regroupement de parents d'élèves de plusieurs communes.
Ça, c'est formidable.
C'était le syndicat de regroupement pédagogique de Mézières, d'Écluzel, de Charpon, de Ouer.
Des voisines,
et qui donc, regroupant leur commune pour l'école, pour les activités scolaires, avait aussi, à travers cela, regroupé des parents d'élèves qui avaient dit « on va créer une section théâtre ». Mais ça remonte à une trentaine d'années. Hein. Et donc cette section théâtre a continué à passer les années et aujourd'hui se produit. Maintenant, évidemment, les artistes qui s'y produisent ne sont plus du tout, pour la plupart, parents d'élèves de ces communes. Certains.
Mais ça a commencé comme ça.
Mais c'est l'origine.
Les parents d'élèves qui jouaient.
Tout à fait. Et donc, en tout cas, ils ont résisté aux années. Et aujourd'hui produisent, on va dire, des pièces qui sont plutôt des pièces vaudeville ou des choses comme ça.
Ah, super.
Qui ont toute leur place dans nos communes.
Très bien. Le théâtre, non pas de boulevard, mais de ma commune.
Tout à fait.
Il y a les troubadours modernes aussi. Ça, c'est plutôt de la variété française.
Voilà, c'est Troubadours modernes qui est, c'est un groupe qui est issu du cercle laïque, mais là aussi, qui a pris, qui vole de ses propres ailes. Et ces troubadours, donc, se produisent dans diverses communes, même sur la ville, hein, même sur les grandes villes, Vernouillet, avec des tours de chant reprenant des artistes d'aujourd'hui ou plutôt d'hier.
Ils sont donc issus du cercle laïque de Dreux.
Oui. Tout à fait.
Absolument. Et alors là, j'ai beaucoup aimé Blues and Country.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a de la danse country ?
Tout à fait. Alors, ça, là aussi, c'est une association qui organise depuis très longtemps des concerts de blues. Je peux citer le nom quand même, La Cheville Ouvrière et notre ami Bernard Brunner, très amateur de blues et qui maintenant, depuis 20 ans, présente. Alors, hier, c'était deux concerts par an. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un concert par an. C'est le rendez-vous d'automne du mois d'octobre et donc c'est quelque chose qui était très intéressant, même pour ceux qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs de blues. Mmh. C'est quand même une musique qui est assez variée, très variée
très,
d'ailleurs,
très varié.
Et en tout cas que chacun y retrouve son compte. Alors country, tout simplement parce que le même Bernard Brunner a créé il y a maintenant une dizaine d'années un groupe country à Luray, musique country et danse country, qui est très important parce que je crois qu'ils sont une vingtaine de danseurs, qu'il y a actuellement des gens qui attendent pour rentrer dans le groupe et ils se produisent donc dans le cadre des diverses manifestations sur la commune de Luray, mais au-delà de la commune de Luray.
Formidable, ça c'est extraordinaire quand même, et puis ça fait tellement de bien de danser.
Tout à fait, d'ailleurs ils participent tous les deux ans à une manifestation nouvelle sur la commune, c'est la troisième réalisation qui a eu lieu en 2014, c'est les arts de la rue. C'est les arts de la rue, c'est quelque chose qui a lieu au printemps, que nous faisons tous les deux ans, parce qu'il faut varier, il faut prendre le temps de monter les spectacles, où là, on a à la fois de la musique, on a à la fois un certain nombre de manifestations, de peintures, et puis l'art de la rue, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui s'expriment par le gestuel, par la musique, par la parole, avec des groupes constitués qui participent à cette manifestation. Je pense, on citait tout à l'heure le cercle laïque qui vient compter, qui vient faire des exercices théâtraux, etc.
C'est formidable de ce genre de choses parce qu'en fait, il y a des tas de gens là-dedans qui n'auraient jamais pensé à s'exprimer de cette façon-là. Ils seraient restés chez eux et ça n'aurait pas été plus loin, quoi.
Tout à fait. Et on le note en particulier, moi je l'ai noté par rapport à la peinture. Il y a beaucoup de gens qui peignent et qui n'osent pas aller sur des associations qui existent sur, sur notre agglomération, que je n'ai pas besoin de rappeler. Simplement aussi, il existe un atelier à Luray. L'atelier...
Tu parles de ton atelier pictural.
Oui, tout à fait. Je parle de l'atelier pictural de Mireille Maury, qui est un atelier qui est très prisé. Il y a là aussi une quinzaine d'artistes, il y a une liste d'attente et surtout je veux rendre hommage à Mireille qui vraiment à la fois est un excellent professeur, donne des conseils et elle-même est une artiste qui était pendant quelques temps aux Beaux-Arts et qui continue à prendre elle-même des cours de peinture et qui s'expose dans bon nombre d'espaces de notre agglomération.
Elle a beaucoup de références, c'est certain.
Oui.
Il y a longtemps qu'elle a monté cet atelier ?
Oui, il y a une douzaine d'années maintenant.
Ah, donc avec du recul...
Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très prisé. C'est le rendez-vous du vendredi après-midi, à la fois de Lurésiens, Lurésiennes, mais aussi de gens extérieurs, de Dreux, Vernouillet, d'autres communes un peu plus éloignées.
Alors, il y a une association qui m'a vraiment interpellée, parce que c'était des voitures de folie, ça c'était extraordinaire. Facel Vegas, ça représente tellement pour Dreux, pour toute la région, pour les collectionneurs, pour les amoureux des belles voitures. C'était de la belle carrosserie, ça. C'était
oui.
Super.
C'est vrai ce que tu évoques. Alors, c'est un pan de l'histoire du Drouet, de Dreux d'abord, de Dreux avec cette cellule de l'entreprise Facel Vega, qui effectivement, pour les amateurs de voitures, c'était à l'époque le summum. C'était la voiture des chefs d'État, des grands dirigeants. Et donc.
Playboys milliardaires.
Voilà.
Millionnaires à l'époque.
pour faire revivre cette histoire, là. Alors là, c'est un groupe de Lurésiens, des particuliers, qui d'ailleurs, pour certains, sont des anciens employés de l'usine de l'entreprise Facel Vega, tout à fait, qui tous les deux ans font un regroupement national. Donc, il vient des gens, je pense, parce que ça me vient à l'esprit, 06 Nice, avec leurs voitures superbes, rutilantes, et puis aussi des locaux qui ont aussi de très belles voitures. C'est à la fois un clin d'œil sur l'histoire, mais maintenant, l'histoire de Facel sur Dreux, on la connaît bien. Il y a une rue Facel, il y a une plaque qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps à l'endroit où il y avait l'ancienne usine. Grosso modo, pour les Drouais qui connaissent bien leur territoire, là aujourd'hui on a la résidence du domaine Saint-Louis.
Oui,
c'est là que se situait l'usine Facel. Et donc c'est à chaque fois une histoire qui est relatée, qui est renouvelée. Mais il est bon de temps en temps de se répéter en matière d'histoire. Surtout
J'espère
pour les plus jeunes.
J'espère qu'on conservera ce genre de souvenirs, parce que c'est quand même très important, comme tu dis. Et quand on voit le nombre d'appartements et d'immeubles qui ont été construits sur le site, c'était énorme, cette usine.
Oui, c'était énorme, et c'était le bout de chaîne. C'était le dernier maillon, c'est-à-dire où on faisait les assemblages, où on faisait tout l'aménagement intérieur.
Alors,
moi, j'invite tous les auditeurs, mais au-delà, ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a un petit peu de publicité qui est faite, de communication régulièrement, venez au printemps voir les voitures Facel.
J'imagine qu'elles doivent être lustrées à souhait.
Tout à fait.
on doit se voir dedans.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand on monte dans ces voitures qui sont véritablement, tu l'as dit tout à l'heure, des voitures de luxe, d'un luxe qui n'avait rien à envier au luxe d'aujourd'hui de nos voitures.
Bien sûr, et là c'était de l'art en fait.
Tout à fait.
Je ne sais pas qui les carrossait, il faudrait que je regarde ça. Mais c'était magnifique. Alors évidemment, tu en as parlé un petit peu, il y a les expos de peinture. Les expositions, elles sont nombreuses.
Alors, elles sont très nombreuses et dans un endroit, dans un lieu qui s'y prête, dans deux lieux qui s'y prêtent très bien. Le premier, à l'origine, c'est notre chapelle Saint-Rémy. Et le second, c'est depuis 2 ans maintenant, la bibliothèque municipale.
Ce que tu appelles la chapelle Saint-Rémy, c'est l'église.
Voilà, c'est notre église. L'église, tu évoquais tout à l'heure le Clairé, cette ancienne appellation de ce qui est aujourd'hui la commune de Luré, l'endroit où se trouve le village, la commune principale. Et donc, dans cette église, dans cette chapelle, c'est un endroit qui se prête vraiment à des expositions de peinture. Je pense... en solo ou en double, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des grandes quantités, on ne peut pas accrocher un nombre de toiles trop important, mais qui, pour des présentations à 2 ou à 3, va très bien. Et aussi, ce que l'on note aujourd'hui, c'est le fait de mixer un petit peu. Je vois par exemple la dernière exposition qui a eu lieu fin mars, qui a lié peinture, d'ailleurs celle de Mireille Maury, et sculpture. Et donc c'est un endroit qui s'y prête très bien, le cadre est très agréable, c'est le cadre d'une église, d'une chapelle avec tout ce que cela comporte. Et donc le deuxième lieu, c'est notre bibliothèque que j'évoquais tout à l'heure, puisque au-delà du livre, de ce que veut venir chercher, la bibliothèque ça appelle la notion de livre, nous avons voulu aussi transformer cette bibliothèque en un lieu de rassemblement pour les habitants de Luré et aux extérieurs, disons le prétexte pour venir chercher un certain nombre d'informations, et entre autres informations, celles de la culture et celles de la peinture.
Merci Alain, c'était très agréable. On recommencera une autre émission, bien entendu, vous vous en doutez, chers auditeurs. Je te parlerai de tas d'autres choses, j'ai une liste absolument énorme, il va falloir que tu répondes à tout.
Ce sera avec plaisir en tout cas, comme d'habitude.
Pierre Écart était à la technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune. Au revoir.